franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Laurence Nardon.
Bonjour.
Vous êtes responsable des programmes États-Unis et Canada de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour Ziane Majed.
Bonjour.
Vous êtes politologue et chercheur libanais, professeur d'études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. On va commencer avec vous par quelques questions simples. D'abord, qui sont les personnes, civiles et combattants, qui attendent d'être évacuées du dernier réduit d'Alep ?
Il y a à peu près 100 000 civils qui restent dans les quartiers contrôlés toujours par l'opposition, assiégés et bombardés. Et il y a des milliers de combattants qui sont exactement comme l'avait dit M. Guetta à l'instant. Ce sont ceux qui ont chassé Daesh d'Alep en décembre 2013 et en janvier 2014. Ils sont issus soit de l'armée syrienne libre, soit des islamistes syriens qui se distinguent des djihadistes dans le sens où ils sont concernés par la territorialité et la temporalité du conflit syrien, donc ils veulent se battre en Syrie même.
Ce sont ceux-là que le régime de Damas et la propagande russe, parfois aussi relayée en France, appellent des djihadistes ou des terroristes.
Exactement. D'ailleurs, Bachar al-Assad et les Russes avaient qualifié tous les opposants au régime de terroristes et il est très facile d'utiliser le terme djihadiste maintenant parce qu'il fait écho et il effraie. Ouais. Donc ils ont stigmatisé cette opposition-là et ils n'ont pas seulement bombardé cette opposition. Il faut le rappeler que Alep n'a pas subi seulement le massacre il y a 3 jours, 2 jours, 4 jours. Cela fait des années et des mois qu'Alep est bombardé. Il y a eu systématiquement une destruction des hôpitaux, des centres médicaux, des boulangeries, de l'infrastructure civile qui permet aux gens de survivre un siège. Et il y a eu une inaction, une impuissance de la part de la communauté internationale, que ce soit par rapport aux convois humanitaires, par rapport à l'aide qui devait être acheminée aux civils assiégés. Et on voit maintenant les témoignages des corps, des cadavres dans les rues, sous les bâtiments détruits par l'aviation russe et celle de Bachar al-Assad, et cela malheureusement continue.
Alors vous nous dites ils n'ont rien à voir, ces combattants, avec Daesh. Daesh a été chassé d'Alep au début de l'année 2014, mais certains dépendent de ce qu'on appelait auparavant le front al-Nusra, lié à Al-Qaïda. Ça pose un problème tout de même, Ziane
Oui,
Majed.
Certainement al-Nusra pose un problème pour les Syriens, avant même que ce soit pour les Occidentaux ou pour le reste du monde. Sauf que même M. Damestoura, quand il a évoqué la présence du front al-Nusra à Alep, a parlé de quelques centaines de combattants. Quelques centaines de combattants d'al-Nusra sur 10 000 combattants de l'opposition syrienne, sur 250 000 civils qui étaient assiégés dans cette ville. Donc au nom d'une guerre contre quelques centaines du front al-Nusra qui sont venus de l'extérieur d'Alep quand il y a eu l'attaque pour briser le siège de la ville, on a détruit, massacré une population, on a anéanti les aspirations de changement. Le témoignage auquel vous faisiez allusion tout à l'heure d'un professeur qui vivait toujours dans la ville, qui essayait d'enseigner et qui a lancé hier comme le dernier appel en disant tout ce qu'on a voulu, c'est d'être libre. On a pu l'être pendant quelque temps. Maintenant, ils sont à 300 mètres de chez nous. Donc, c'est un massacre qu'on a vu en direct pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, sans agir et sans être présent auprès des Syriens.
Certains comme Nicolas Tanzer ont parlé de guerre d'extermination. Vous-même, je vous ai entendu parler de génocide lent s'agissant d'Alep. Là, on est au-delà du crime de guerre. C'est
exactement.
Le crime contre l'humanité, c'est ça que vous
tout
plaidez.
À fait. Oui.
Ziane Majed, de l'autre côté, qui sont les soldats à l'offensive ? Ce ne sont pas seulement des Syriens.
Non, pas du tout. En fait, le régime syrien avait reconnu officiellement, été 2015, juste avant l'intervention russe, qu'il n'avait plus les ressources humaines pour se battre sur tous les fronts. L'armée du régime a connu des défections, a connu aussi des pertes durant les combats. Elle avait perdu du territoire au sud du pays, au nord du pays. Elle ne contrôlait que 22% du territoire quand l'aviation russe a commencé à bombarder. Donc, auprès des soldats du régime, il y a eu une forte mobilisation par l'Iran de milices chiites venant du Liban, le Hezbollah, de l'Irak, le mouvement al-Nujaba et le mouvement Abul Fadl al-Abbas et Asaab al-Haq, et même des combattants Hazara afghans avec des volontaires pakistanais et iraniens, donc, idéologiques, de la brigade Fatimiyoun. Ils sont tous présents.
Des afghans, des iraniens, des libanais.
Tout à fait. Quelques pakistanais et des officiers iraniens qui sont directement sur place pour diriger les opérations.
Comment les qualifier ? Ce sont des mercenaires, Ziane Majed
ou... Ils sont dans un sens des mercenaires, bien sûr, mais en même temps, pour certains, ils sont dans des motivations idéologiques mobilisées par l'Iran contre les insurgés, les opposants syriens. Et il y a aussi 5000 mercenaires russes qui sont sur place, des anciens combattants de la Tchétchénie. Il y a eu déjà des funérailles de Russes morts en Syrie, autres que l'aviation et l'armée de l'air de la Russie. Donc il y a une alliance internationale qui soutient Assad contre des Syriens. Et au nom de la lutte contre Daesh, on a laissé faire un massacre à Alep même et dans d'autres régions. Et au-delà de cela, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'on est en train d'envoyer un message à cette région du monde, au peuple syrien spécifiquement, que le droit international ne le protège pas, qu'il est expulsé de ce qui fait que l'humanité aujourd'hui a des conventions, que ce soit les accords de Genève de 1949, que ce soit la charte des droits de l'homme, que ce soit le droit en général. Cette impunité des criminels en 2012, puis en 2013 après le massacre chimique, puis aujourd'hui, fait que tout le monde peut justifier ses crimes et dire que de toute façon on va échapper tant qu'il y a des normalisations et tant qu'il y a des rapports de force en notre faveur.
Ziad Majed, on va revenir vers vous tout à l'heure et on verra quelles sont les conséquences évidemment de cette prise d'Alep, et vous venez de le rappeler, par des troupes étrangères. On se demandera avec vous si la révolution syrienne est terminée. Laurence Nardon, je me tourne vers vous pour le volet américain. On a entendu à 7h tout à l'heure la sortie théâtrale de l'ambassadrice à l'ONU, Samantha Power, qui apostrophait les Russes et les Iraniens. N'y a-t-il vraiment rien qui puisse vous faire honte? C'est une rhétorique de l'émotion qui... est aussi un aveu de faiblesse, quand même, pour les États-Unis.
Ah bah oui, je pense qu'avec cette sortie, elle essaye de souligner, alors ce qui contredit un peu ce que vous avez dit, monsieur, l'idée que l'Ouest, l'Occident, n'a pas été inactif, il a juste été inefficace. Inefficace, on le voit tout à fait, mais elle rejette donc la faute sur les Russes et les Iraniens.
Mais il est vrai, de toute manière... On pourrait pourtant retourner l'apostrophe, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sentiment de honte dans côté l'administration américaine, et peut-être
évident.
Même chez Barack Obama, certains commentateurs ont écrit, je l'ai vu hier soir, il a peut-être passé la pire journée de son mandat parce que avec le poids moral de celui qui n'a rien fait pour empêcher cela.
C'est évident, je ne dis pas que Samantha Power a raison, je dis que voilà son explication, voilà ce qu'elle essaye de dire, et il est évident que l'administration Obama a une responsabilité terrible dans ce qui se passe avec ce fameux revirement de Barack Obama à l'été 2013 après les frappes chimiques dont Bernard Guetta a parlé. Voilà. Et maintenant, avec Trump, on va voir ce qui se passe.
Alors oui, Trump et ce comment dire, ce grand patron pétrolier proche de Poutine, vieille connaissance de Poutine, etc., qui fait dresser les cheveux des caciques républicains. D'abord, est-ce qu'on est sûr qu'il sera investi, parce que c'est la première question, il faut qu'il y ait un vote de confirmation?
Oui, effectivement, en fait, la plupart des les responsables de l'administration que Trump est en train de désigner aujourd'hui, doivent tous être confirmés par le Sénat. Et donc, ça n'est pas évident que ce soit possible, notamment pour Rex Tillerson, parce que au Sénat, il y a un certain nombre de caciques républicains qui sont extrêmement anti-russes. Mitch McConnell, notamment, qui est le chef de la majorité républicaine au Sénat, l'a dit. Et donc, il n'est pas évident que tous ces gens soient confirmés. Je pense, pour ma part, que peut-être que Rex Tillerson est justement une sorte de chiffon rouge que Trump mentionne aujourd'hui, et qui lui permettra ensuite d'accepter son retrait en échange de la confirmation d'un autre membre de son administration. Enfin, je pense qu'il y a peut-être une petite stratégie de la part de
une sorte de risque calculé.
Michael Flynn,
c'est le nom que vient de suggérer Bernard Guetta.
Mais lui n'a pas été confirmé par le Sénat, parce que c'est un membre de l'administration, c'est un membre de la Maison Blanche. Un conseiller de la Maison Blanche, ils n'ont pas été confirmés. Voilà, ceux qui doivent être confirmés, c'est les ministres, on dirait en français, c'est-à-dire le secrétaire de la Défense, secrétaire Homeland Security, secrétaire d'État, etc.
Mais vous nous confirmez en tout cas que tel que l'administration américaine se décide aujourd'hui, on est bien sur une forme de repli isolationniste encore plus marqué que sous Obama qui se dessine avec Trump.
Il va y avoir la même réticence à intervenir chez Trump qu'il y avait chez Obama, sauf qu'elle vient d'autre part. Si vous voulez, Trump, c'est un personnage qui est plutôt dans une attitude de repli nationaliste. Donc ce qui compte pour lui, c'est l'Amérique en premier. Et donc, il est à l'opposé complet des néoconservateurs ou même d'Hillary Clinton qui sont des idéalistes et qui veulent que l'Amérique amène la démocratie dans les pays qui sont trop malheureux pour avoir eu la démocratie jusqu'à présent. Donc c'est l'invasion de l'Irak en 2003, l'une des raisons. Et donc Trump va être vraiment sur la protection du territoire. Lui, il dit depuis le début, comme beaucoup d'ailleurs de gens relativement nationalistes, la Russie en premier, que si on avait laissé Saddam Hussein, il n'y aurait pas le chaos qu'on connaît en Irak. Si on avait laissé Kadhafi, il n'y aurait pas le chaos qu'on connaît en Libye. Et donc, fin du raisonnement, il faut laisser Bachar el-Assad parce que lui seul peut stabiliser le pays. Et c'est ce qui rapproche Trump de la position de Vladimir Poutine aujourd'hui.
Laurence Nardon, Ziad Majed, on vous retrouve dans quelques minutes.